La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir les acteurs de la société qui font bouger les lignes. La France bouge. Ici, c'est simple. On trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. L'une des meilleures écoles de code informatique au monde est en France. C'est l'école 42, créée par Xavier Niel avec un modèle atypique, gratuit et ouverte à tous. Elle essaime aujourd'hui partout dans le monde. La patronne de l'école 42 est notre invitée jusqu'à 14h.
Elle a une en effet. Comment rendre accessible le monde numérique aux enfants, le tout sans écran? C'est le pari de la start-up Digit Hall qui accompagne les enseignants dans les écoles à découvrir d'ici quelques minutes.
Elle avait créé Lycos puis dirigé Club Internet. On peut parler d'une pionnière du web français. Marie-Christine Levé investit aujourd'hui dans l'éducation innovante et elle aussi, elle sera avec nous dans cette France Bouge.
Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet dans la France Bouge. Le pitch du jour, réglo, de la nourriture pour animaux à base d'insectes. Ce projet va-t-il vous convaincre? Réponse 13h45.
Et puis demain au travail, nous passerons un coup de fil à la DRH de l'ESSEC. Il y a l'école de commerce des challenges sportifs. Pour faire quoi? Eh bien réponse aux alentours de 13h50.
Et oui, c'est ça, la France Bouge. Restez avec nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Mais oui, on vous le montre chaque jour que la France continue de bouger malgré ses confinements à répétition et ça bouge notamment dans ce monde de l'éducation. On va parler notamment codage informatique aujourd'hui jusqu'à 14h avec notre témoin du jour.
Bonjour Sophie Vigère.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale de l'école 42, l'école fondée par Xavier Niel, c'était en 2016. Ce sont des écoles d'informatique présentes partout en France, notamment à Nice, Angoulême ou encore Paris, justement. Paris, 4000 étudiants et dans les 35 campus partenaires dans le monde, comme à Rome, Bruxelles, Amsterdam ou Tokyo, vous êtes 12 000. Alors Sophie Figet, comment ça va à l'école 42 en ce moment?
Ça va très bien. J'ai un peu de mal à le dire, je suis désolée, mais c'est vrai que ça
mais
va très très, très bien.
Il faut l'assumer, c'est formidable.
Oui, c'est vrai que c'est une période un petit peu difficile, mais c'est vrai qu'à 42, ça va extrêmement bien.
Alors, qu'est-ce étonnamment... qui fait que ça va extrêmement bien?
Alors, ça va bien parce que, étonnamment, on pourrait toujours se dire que d'être passé en formation à distance, ça a dû être très facile pour une école d'informatique, on a claqué des doigts. Ben non, pas du tout. C'était pas si simple que ça parce que la formation est beaucoup basée sur le présentiel, sur le faire ensemble. Vous l'avez dit, c'est de la formation en pair à pair, donc on travaille ensemble. Et nous, on croit beaucoup au présentiel. Il se passe pas les mêmes choses quand on est en présence et quand on est à distance. Donc, ça a été tout un travail qu'on a réussi à mettre en œuvre malgré tout. On a permis la continuité pédagogique et aussi, on a continué à emmener nos étudiants à avoir des événements, à créer encore cette communauté-là. Donc ça, c'était une réussite. Et puis surtout, on a réussi à maintenir l'école dès que possible ouverte, avec évidemment tous les gestes sanitaires. Et on a eu très peu de cas de Covid. Donc ça, c'était une réussite.
Et ce qui fait que ça va très très bien, c'est que vous êtes tellement sur des métiers d'avenir.
Voilà, j'allais vous dire.
Vous pourriez en former 10 fois plus que vous auriez du travail pour tout le monde.
Exactement. On est sur des métiers en tension. On a 100% d'embauche. Et on a vu en plus une progression sur 2020. On a eu plus 30% d'offres d'emploi sur notre site internet, offre d'emploi ou offre de stage. Donc, dans l'ensemble, évidemment, ça va très bien. On accompagne correctement les étudiants et ils trouvent des emplois et des stages très facilement.
Il y a eu pas mal de sites d'éducation qui ont été attaqués ces dernièrement, des cyberattaques ces derniers jours, notamment le CNED. Vous aussi, vous avez eu des problèmes à 42?
On n'a eu aucun problème. Et en plus, confidence, on vient de refaire faire des tests par une entreprise extérieure sur la sécurité.
Et vous êtes
OK, tout est parfait, on est au taquet.
Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous inviter dans la France Bouge, 42, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc une école de code informatique fondée par Xavier Niel avec une méthode assez atypique. Vous le disiez, on travaille vraiment en tête-à-tête, pas de cours magistraux, pas vraiment de relations hiérarchiques entre les profs et les élèves. On est tous au même niveau et puis on travaille ensemble. Mais emmenez-nous un peu dans les coulisses. Comment ça fonctionne ?
Alors, c'est même pas, il n'y a pas de relation hiérarchique, il n'y a pas de prof du tout. Je sais que c'est très déstabilisant, parce qu'on n'a pas été habitué de la sorte. Mais en fait, quand vous arrivez et que vous êtes confronté, en fait, nous, notre travail, ça a été de créer des exercices qui vont des exercices très simples aux exercices plus compliqués. Et du coup, quand vous allez être confronté à un exercice simple que vous n'avez jamais codé, bah, tout simplement, vous allez naturellement vous tourner vers quelqu'un d'autre, puis essayer de comprendre comment est-ce qu'il l'a fait. Donc, vous allez partager votre expérience. Vous allez discuter, vous allez peut-être aller regarder une vidéo, lire un manuel. Donc, vous allez créer votre notre propre cadre d'apprentissage pour pouvoir résoudre les problèmes. Et ainsi, on va avoir autant de possibilités de résoudre le problème qu'il y a de personnes différentes. Et puis surtout, un point particulier, c'est que comme il n'y a pas de professeur, qui corrige les étudiants ?
Non mais c'est vrai, il n'y a pas de professeur, c'est une façon de parler.
Il n'y a pas de professeur du tout. Non,
mais
absolument
alors,
pas.
Alors qui enseigne quoi ?
Alors, ce sont les étudiants qui vont aller chercher eux-mêmes des solutions aux problématiques qu'on leur propose. Vous avez tout un parcours qui est un peu gamifié. C'est un peu comme dans un jeu. Vous partez du niveau 0, puis vous pouvez aller jusqu'au niveau 21. Vous gagnez des points d'expérience chaque fois que vous réussissez des projets. Et quand vous avez finalisé un projet, vous allez le mettre, on va dire, sur le cloud, et il va être corrigé par 5 autres étudiants. Et vous allez me dire, mais comment on peut corriger si on ne sait pas ? Mais moi, je peux vous dire que vous pouvez corriger vous-même, par exemple, votre application mobile, si elle ne marche pas, vous-même, vous allez me dire, ça, ça ne fonctionne pas.
Mais
donc, vous pourriez corriger quelqu'un.
C'est sur le modèle du scoutisme, c'est de l'éducation du jeune par le jeune.
Ah, alors je ne me connais pas très bien en éducation
mais non, mais scout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de professeur et c'est entre nous.
Il me semble qu'il y a une hiérarchie quand même dans le scoutisme, mais peut-être je me trompe, mais là c'est vraiment pair à pair. Et surtout les périodes en fait, où vous allez corriger quelqu'un sont des périodes d'apprentissage extrêmement intéressantes parce que vous allez devoir corriger quelqu'un qui va du coup vous expliquer comment il a réussi l'exercice et vous allez pouvoir corriger plusieurs personnes. Vous allez avoir plusieurs explications. Et quand vous allez être corrigé, vous allez devoir expliquer ce que vous avez fait. Et pour l'expliquer, vous allez utiliser une zone du cerveau spécifique de l'être humain qui permet de renforcer les apprentissages. Donc il y a plein de manières comme ça d'apprendre qui seront différentes et qui seront différentes pour chacun. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça développe des compétences qui sont très demandées en entreprise, qui sont à la capacité à collaborer, à communiquer.
L'autonomie,
à avoir
la polyvalence.
Du sens critique, de l'autonomie. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en temps normal. Malheureusement, pas pour l'instant, mais ça développe aussi l'autodiscipline puisque vous venez à n'importe quel moment pour travailler et pour avancer.
Mais alors ça veut dire que vous organisez quand même en amont des groupes de niveau, parce que si personne ne sait faire l'exercice, il faut bien qu'il y ait une personne qui puisse expliquer, un élève qui puisse expliquer.
Je sais que ça a l'air magique,
ouais, c'est vraiment curieux, c'est énigmatique.
En fait, on pourrait toutes les deux, par exemple, démarrer quelque chose sans savoir comment faire et aller chercher nous-mêmes les informations. C'est possible. J'ai fait une interview avec une étudiante, ce que j'avais trouvé de plus merveilleux. Bon, elle était complètement cancrée à l'école, elle n'avait pas de diplôme, ça a été une révélation 42, maintenant elle a un boulot extraordinaire dans une boîte qui a été créée par des étudiants de 42. Moi, ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est quand elle a dit, ce que ça m'a appris, c'est que maintenant, face à une situation où je ne sais pas comment faire, je n'ai pas peur. Je sais que je peux aller chercher les informations et les ressources pour y faire face et pour avancer. Et en fait, ça, c'est ce qu'on avait tout petit. Quand vous êtes enfant, vous arrivez à aller chercher tout ce qu'il vous faut pour vous apprendre à marcher, vous apprendre à écrire et vous vous sentez plein de votre capacité à faire. Eh bien, on renoue avec ça.
Vous renouez avec ça. On va continuer à en parler. C'est fascinant, hein, cette école 42 Sophie Vigée.
On a plein de questions, parce que là, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de se dire, mais je veux y aller, comment je peux rentrer ? Bah, je peux dire, vous restez avec nous pour avoir la réponse.
Europe 1.
Et il est 13h18.
À suivre, initier les plus jeunes en formant les enseignants aussi au codage.
Oui, on a pour ça une super solution. Ça s'appelle Digital et sa fondatrice est également avec nous. Et on vous montre peut-être encore plus que jamais que oui, la France bouge. Je vous rappelle, on a l'une des meilleures écoles du code informatique au monde en France. Ça s'appelle l'école 42 et notre grand témoin aujourd'hui, c'est Sophie Vigée, qui est la directrice générale de 42.
Et former son enfant au code ou aux bases du raisonnement informatique. Eh bien oui, on se dit que c'est la base pour préparer le monde de demain. Le souci, c'est qu'il faut aussi former les enseignants. Bonjour Marilyn. Oui, nous aussi. Hein. Bonjour Marilyn Perrenet.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel,
bonjour
Sophie.
Vous êtes la fondatrice de Digital. Alors, je vais les plaire parce que nos éditeurs ne savent pas forcément comment ça s'écrit. C'est Digital. C'est une EdTech, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, ces startups dans le monde de l'éducation qui a été fondée il y a 4 ans. Mais vous, Marilyn, ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce projet. Pour vous, il n'est pas question de laisser un enfant devant un écran pendant des heures, mais il faut apprendre le codage, il faut apprendre tous ces métiers du numérique. Alors, vous avez trouvé la solution avec Digital. Vous allez vous accompagner les enseignants grâce à vos contenus. C'est ça, en quelque sorte ?
Tout à fait, Elisabeth. Alors, pourquoi les enseignants ?
Ouais.
Parce qu'en fait, dans les programmes de l'éducation nationale, nous avons la loi Hollande qui préconise, dès le CE1, une heure par semaine de programmation et de code. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, qui va former les enseignants ? Avec quel budget ? Et puis quand on est enseignant, et notamment je pense aux enseignants de primaire, on ne peut pas aller passer sa journée à laisser ses enfants dans la classe pour aller se former. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on leur crée du contenu pédagogique. Et Digital est né ainsi, et d'autant plus que dans l'école, c'est l'inclusion, c'est hyper important. C'est-à-dire que là où on ne parlait pas anglais il y a 20 ans, on pouvait s'en sortir, trouver un métier, se faire une vie. Je pense qu'aujourd'hui, si nos enfants n'ont pas l'esprit critique et qu'ils prennent le recul par rapport à l'algorithme, etc., ça va être un vrai désastre. Donc effectivement, je me suis dit, mais dans l'école, quel que soit votre milieu social, vous allez à l'école. Et que vous soyez une fille ou un garçon, vous allez à l'école.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez d'inclusion, vous partez aussi de l'idée de se dire qu'il n'y a pas des ordinateurs pour tout le monde dans une classe. Donc au-delà du fait que vous ne voulez pas qu'on passe des heures devant un écran, il y a aussi cette idée de se dire qu'il faut trouver une solution autre. Et donc c'est très simple, ce sont des petits cahiers, on les a testés avec Elisabeth.
On les a aussi, on les a en studio, ils sont super.
Comme si c'était un cahier de soutien scolaire pour l'été. Décrivez-nous justement ce parcours intellectuel derrière pour voir comment ça fonctionne.
Alors effectivement, on s'est dit, mais en fait, il n'y a que 28% des écoles, en tout cas primaires en France, qui sont équipées. Et puis, ce n'est pas l'objet. Parce qu'en fait, on parlait notamment, Sophie, que je rejoins énormément, parce que dans la Fondation Digital, il y a aussi l'exemple de l'école 42 que j'ai regardé pendant des années. Et je me suis dit, mais en fait, de 5 à 17 ans, on n'a rien. Et il faut bien les accompagner. Et comment on les accompagne sans écran primaire? Avec les mains. La confiance en soi, on l'a également quand on fait avec ses petites mains. Et que quand on crée des activités pour apprendre la logique de l'algorithme, du déplacement dans l'espace, des boucles, eh ben, on peut très bien le faire avec les mains. Et un papier, un crayon, via des cahiers. Donc effectivement, on a créé beaucoup de contenu qu'on peut faire en classe, que les enseignants peuvent retrouver sur notre plateforme aujourd'hui à télécharger gratuitement, parce qu'on pense que c'est la meilleure période aussi pour eux.
Et vous gagnez votre vie comment, vous, du coup?
C'est la question du business model, c'est une très bonne question, Emmanuel. En fait, on propose des ateliers dans les écoles pour justement remplir les 30 heures du programme de l'éducation nationale. Donc on propose nos ateliers sur le temps scolaire. Aujourd'hui, 30% de notre activité, et nous sommes en France, et oui, ça existe, les enseignants nous laissent leur classe avec beaucoup de confiance. Donc, nos ateliers, et nous vendons également nos cahiers, entre autres. Et puis, dans les semaines à venir ou les mois à venir, nous aurons un abonnement pour les enseignants et les parents pour nos ressources pédagogiques.
Alors, dans Digital, on commence directement par coder ou il y a tout un ordre à respecter dans le programme?
Alors, il y a effectivement, Elisabeth, tout un parcours. En fait.
Alors, c'est quoi ce parcours?
Ce parcours correspond aux compétences qui sont acquises et attendues par l'éducation nationale. On commence toujours en grande section d'abord par le déplacement dans l'espace. Alors, si des enseignants nous écoutent aujourd'hui, c'est très important le déplacement dans l'espace parce que ça permettra ensuite, on verra le parcours de l'algorithmie. Et les enfants l'apprennent à la fois en faisant des cours dans les cours de gymnastique avec leurs enseignants. Et puis ensuite, ils font du déplacement relatif et ils arrivent sur des premiers parcours.
Ça, c'est grande section, mais au fur et à mesure, chaque année, il y a un programme bien établi. À partir de quelle classe ils commencent véritablement à coder?
Oui, ils commencent alors sur un mix d'écran à partir du CM1. Et puis à ce moment-là, ils commencent à déplacer soit des petits personnages, soit notre petite chouette au lit sur des parcours. Ils commencent les premières procédures, puisqu'ensuite on les amène au collège où ils passent la programmation brevet.
S'ils n'ont rien fait, qu'ils commencent là en CM1, c'est possible aussi de faire appel à vous?
Oui, tout à fait, parce qu'on reprend les bases.
On reprend les bases.
Sophie Vigée, je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'école 42. Comment vous voyez ce genre de solution sans écran?
Je trouve ça formidable. De toute façon, déjà, on fait face à une situation qui est un petit peu dramatique en France, puisque malheureusement, alors, il y a eu quelques réformes, mais l'école ne forme pas au métier de l'informatique. Or, au-delà des métiers de l'informatique, on a quand même une problématique aussi qui est qu'on est dans un monde de plus en plus digitalisé et que pour pouvoir exercer sa citoyenneté correctement, on doit aussi avoir des bases. On a une fracture digitale qui est de plus en plus importante, donc je trouve ça absolument formidable. Nous, on a abordé le même problème, mais d'un autre angle. Alors, je vous le donne en primeur, on fait un partenariat avec l'Éducation nationale et on va mener une expérience, une expérimentation auprès du cycle 3, donc CM1, CM2, pour mettre du code à l'école, mais pas que du code, pas de l'algorithmie, mais de la littératie numérique, comprendre comment utiliser son image et surtout comprendre comment aller chercher de l'information, la vérifier, la trier. C'est une compétence qui est extrêmement importante justement pour essayer d'éviter un monde de fake news.
Parce qu'aujourd'hui, ne pas savoir coder, ça veut dire potentiellement ne pas pouvoir travailler dans tous les métiers qui embauchent, mais qui sont aussi larges qu'être spécialiste en cyberdéfense, que travailler dans le marketing parce que il faut savoir utiliser la donnée pour savoir ce que les clients utilisent. C'est à tous ces métiers que vous formez.
Et vous avez tout à fait raison. Et puis même tous les métiers en
et
fait,
même
sont digitalisés. Exactement. Donc vous avez besoin d'avoir un bagage. Or, c'était très bien dit par Marilyn, elle a souligné le fait par exemple que ce sont les petites filles et les petits garçons. De pouvoir mettre ça à l'école assez tôt, ça permettra de donner un pied de départ qui serait quand même un peu plus équitable entre les petites filles et les petits garçons, peut-être déclencher les vocations chez des jeunes filles, mais aussi chez des jeunes qui n'évoluent peut-être pas dans un milieu où il y a des parents aguerris au numérique. Donc c'est très important de ramener un petit peu d'équité à cet
endroit-là. Marilyn, pour ceux qui vous écoutent, les enseignants qui vous écoutent, ils font comment comment pour vous contacter et faire appel à vos services?
Alors, ils vont sur notre plateforme digital.school. Ils ont toutes les ressources. Aujourd'hui, on a plus de 230 heures de ressources pour les enseignants, de la maternelle au lycée. Et comme le dit très bien Sophie, notre sujet, évidemment, le code, c'est important, mais ce qui est très important, c'est cette culture au numérique. Dans un parcours, nous aussi, ce qu'on leur apprend, c'est de Jules César, premier cryptologue de l'humanité, jusqu'à Elon Musk, c'est quoi un algorithme? C'est quoi cette histoire de l'algorithme? Parce que c'est derrière, quand on a cette connaissance de cette culture-là, qu'on soit journaliste demain ou entrepreneur, peu importe, on sait avoir du recul sur ce qui se passe. C'est une question d'éthique et de citoyenneté.
Ça s'appelle DigitHall. On adore à La France Bouge. Merci à vous, Marilyn Perrenet, d'être venue nous le présenter dans La France Bouge aujourd'hui.
Et puis, si tous nos invités pouvaient avoir autant de sourires dans la voix, je peux vous dire qu'on serait encore plus heureux à La France Bouge. Sophie Vigée, on vous garde avec nous. Vous êtes la directrice générale de 42.
Europe 1, il est 13h28. À suivre, un fonds d'investissement pour les startups spécialisées dans l'éducation.
Oui, ça s'appelle EduCapital et ça alimente la croissance et le développement de toutes ces entreprises dans ce secteur. On sera avec sa patronne dans un instant. Et on parle donc éducation avec l'une des meilleures écoles de code informatique au monde. Et cette école se trouve en France, c'est l'école 42 que vous dirigez, Sophie Vigée. Vous êtes notre grande témoin jusqu'à 14h. Alors on a envie de savoir quand même comment on rentre
oui,
du côté de l'école.
Il n'y a pas de prof, il n'y a rien.
Il n'y a pas de prof. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une école gratuite, ouvert à tous, en tout cas pour tenter le concours d'une certaine manière.
Tout à fait.
Racontez-nous comment ça se passe.
Alors, si vous voulez candidater, et je vous enjoins surtout si vous êtes une femme encore plus à candidater pour venir à 42, vous allez d'abord passer des tests en ligne qui sont assez simples. C'est un test de mémoire, un test de logique. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez qu'à vous réinscrire et puis vous pouvez les repasser. Ensuite, comme on est quand même une des meilleures écoles au monde, qu'on est complètement gratuit, qu'on est sans condition de diplôme, et je tiens à dire sans condition d'âge aussi, c'est très important, évidemment, il fallait trouver un moyen de pouvoir sélectionner en fait les personnes et on ne voulait pas se baser sur des critères donc sociaux habituels, donc on a créé ce qu'on appelle la piscine. La piscine dans le sens immersion. Pour apprendre à nager, la meilleure chose c'est de sauter dans l'eau et de se mettre à nager. Alors évidemment avec des bouées au départ, mais c'est quand même le meilleur moyen. Et donc cette piscine en fait c'est une période de sélection qui va durer pendant 26 jours. C'est donc 26 jours pendant lesquels vous allez apprendre à coder dans le langage C et apprendre aussi la pédagogie de 42. Mais vous allez aussi en apprendre énormément sur vous-même. Vous allez rencontrer vos meilleurs amis. En général, c'est une période extraordinaire.
Et c'est ça qui détermine si derrière, on peut poursuivre le programme. Mais partons du principe, là, quelqu'un qui nous écoute, qui est une femme, qui a 54 ans, qui n'a jamais codé de sa vie et qui se dit « je veux tenter ». Elle a peut-être moins de chances de réussir sa piscine que le petit jeune qui a déjà fait du col à l'école, qui a 18 ans et demi.
Alors, c'est sûr que s'il a déjà codé avant, c'est un peu la vie. Ça, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Mais ceci dit, dans la sélection de la piscine, vous avez plein de critères. Donc, on n'explique pas tous nos critères. Mais dans les critères, il y a évidemment... Alors, vous allez pendant la piscine, vous allez faire de la programmation, vous allez rendre des exercices, vous allez faire des exercices en groupe qui sont aussi des moments aussi d'échange qui sont assez incroyables. Et vous avez des sortes d'examens où vous allez être face machine avec aucune connexion Internet et devoir répondre à des exercices. Donc, c'est sûr, évidemment, si vous avez déjà codé avant, c'est plus facile, mais néanmoins...
Ce que vous dites, c'est que si on a une appétence pour la matière et qu'on a une envie de découvrir et qu'on a une soif d'y arriver, ça peut marcher.
C'est possible. On va conserver à la fin à peu près un tiers ou la moitié des personnes qui participent à la piscine.
Donc il y a bien des gens qui vont décider. Là, il y a quand même une hiérarchie. Qui va décider?
Il y a une équipe pédagogique. Mais de toute façon, il y a aussi un énorme travail. Alors les choses ne sont pas magiques, elles se font pas toutes seules. On a, nous, un énorme travail qui est fait derrière par les équipes pédagogiques pour créer l'intranet et créer tout ce parcours, en fait, qui va être un parcours d'apprentissage. Qui d'ailleurs à noter est le même. En fait, on a d'abord un socle de compétences qui va être le même dans tous les campus 42. Je rappelle qu'on est dans 23 pays différents, on a 36 campus dans le monde entier et ce même tronc commun est identique partout.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour mettre en place une telle méthode? C'est révolutionnaire comme méthode.
Alors, je dois avouer, c'est pas moi qui l'ai mise en place parce que j'ai commencé en 2018 à diriger 42 et c'est aussi la poursuite d'un travail qui avait été entamé à EPITA. Puis à Epitech et ensuite à 42 qui a été poussé vraiment à son paroxysme. On peut trouver des liens avec la pédagogie de Joseph Jacotot. Alors là, on remonte au début du 19e siècle, qui était la théorie du maître ignorant, qui montrait que tout était relié à tout, que l'intelligence était répartie également, et qu'en fait, tout était une question que de relier les choses à sa carte mentale. Et le fait que vous ayez quelqu'un qui sait à côté de vous, ça peut être en fait finalement pas si avantageux que ça, parce que c'est quelqu'un qui va vous apprendre exactement de sa manière à lui comment il faut faire. Donc il y a quelque chose d'écrasant dans cette démarche-là. Voilà, donc après...
Vous disiez, surtout si vous êtes une femme, n'hésitez pas à vous inscrire. Ouais. Il y a combien de femmes? Quelle est la proportion de femmes à 42
alors,
en ce moment?
Exceptionnellement haute, mais dans les métiers de l'informatique. Alors, à 42, là, sur les dernières piscines de février et mars, on a eu 46% de femmes.
Ce
c'est énorme.
Formidable.
Oui, c'est formidable, mais c'est un travail acharné de toutes les équipes en permanence. C'est malheureux, on est dans un monde où malheureusement l'informatique est assimilée aux hommes, parfois même les sciences, alors que ce sont des métiers qui sont formidables. Souvent, malheureusement, les femmes se disent « c'est pas fait pour moi », mais elles ne savent
elles
pas ce que c'est.
Elles s'auto-censurent, elles ne savent pas pourquoi.
Exactement.
Surtout qu'on est d'accord qu'elles sont meilleures à la sortie de 42 que tous les garçons.
Bah, comme dans la vie, de manière générale, non?
Mais, oui. Mais en plus, je crois assez sérieusement, toutes les études le montrent que généralement, elles sont meilleures dans la sortie. Donc ça, c'est important. Vous le disiez, vous êtes présent maintenant partout dans le monde, dans 23 pays, je crois que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que vous comptez continuer de vous développer comme ça?
Oui, bien sûr. Il y a un endroit où on est absent pour l'instant qui est l'Afrique, donc on va se développer beaucoup plus en Afrique et on devrait être, donc on a actuellement 36 campus, je pense que d'ici à peu près 2 ans, on aura une cinquantaine de campus dans le monde entier. On est très demandé et c'est aussi un rayonnement de la France.
De la France,
partout,
évidemment.
Bien
justement,
sûr.
Tiens, les élèves français, ils se situent comment par rapport? Parce qu'il y a plein de nationalités, hein, 42.
69 nationalités.
Ils sont comment les Français?
Bah, ils font très bien.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont, j'ai envie de dire, ils ont le niveau, ils arrivent avec ce même bagage que d'autres étudiants étrangers.
Ouais, il y a pas de, on n'arrive pas à faire de disparité. Vous savez, à 42, j'ai jamais vu autant de diversité. Mmh. On a vraiment, on a toutes les cultures, toutes les origines sociales, toutes les religions, toutes les couleurs et tous les sexes. Et quand je dis tous les sexes, c'est que vraiment, on a des femmes, des hommes. Et par exemple, on a des personnes non binaires. Et on en a beaucoup plus, par exemple, que dans la société, on va dire, traditionnelle. Mmh. Donc il y a une diversité qui est.
J'ai envie de
vraiment...
dire, vous avez la diversité. Diversité de demain peut-être. Hein.
Ouais, je pense.
C'est un
et surtout
ça,
c'est une diversité qui est le cœur de l'innovation. C'est pour ça qu'on est innovant.
Alors avec les confinements successifs, Sophie Vigier, on l'a vu, hein, la pandémie a mis le marché de la EdTech, hein, c'est-à-dire de ces startups spécialisées dans l'éducation, en pleine effervescence. Et c'est ainsi qu'il y a eu énormément de levées de fonds cette année, n'est-ce pas Marie-Christine Levé?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes la cofondatrice d'Educapital. Hein. Educapital, donc, c'est un fonds d'investissement dans ces startups spécialisées dans l'éducation, dans la EdTech. Ça a été créé en 2017 et on peut le dire, c'est le premier fonds d'investissement dans ce secteur en France. Seul fonds, il faut le dire, managé par deux femmes, Marie-Christine.
Oui, donc nous avons créé Educapital en 2017 au tout début de la tech. On était très pionniers dans ce domaine. Aujourd'hui, nous soutenons plus de 20 sociétés qui inventent le futur du monde de l'éducation à l'image de ce que peut faire un digital ou une école 42 pour les sociétés qui n'ont pas de mécènes comme Xavier Niel. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'innovation technologique au service du monde de l'éducation et de la formation à tous les âges de la vie d'un individu, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle.
Qu'est-ce que vous voyez émerger dans ce secteur de l'éducation, puisque en finançant les entreprises, notamment au démarrage, vous avez une position de contrôle assez impressionnante?
Alors, il y a 500 entreprises EdTech en France, hein, dont on fourmille d'idées en France. On a des très, très bonnes entreprises, de très, très bonnes idées. Alors, parmi les grandes tendances, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vraiment de pouvoir donner à chacun un apprentissage personnalisé qui s'adapte à la manière dont chaque enfant apprend. Alors, ce n'est rien de plus que ce que faisait le professeur particulier quand il avait deux élèves dans sa classe. Il leur donnait des exercices différents. Sauf que là, on peut le faire dans des classes de 40. On peut vraiment faire en sorte que chaque enfant ait son propre parcours d'apprentissage personnalisé et c'est excessivement bénéfique pour réduire le décrochage scolaire, hein, qui est aujourd'hui un des grands fléaux de notre société, puisque 80 000 enfants décrochent chaque année du système scolaire.
Donc et ça, d'une c'est certaine manière, choses. La crise est sûrement un accélérateur pour vous dans ce secteur, parce que ça montre que, bah oui, on peut faire l'école à distance et puis si on trouve des solutions personnalisées et qui n'est pas juste filmer un cours, il y a des choses très intéressantes à faire.
Ah oui, la crise a agi vraiment comme un catalyseur pour le secteur de l'EdTech. Elle a fait gagner 5 à 10 ans au marché de l'EdTech. Il y a vraiment eu des barrières psychologiques qui sont tombées et finalement la plus grande expérimentation au monde, puisque tous les parents, élèves, professeurs ont expérimenté l'EdTech et se sont rendus compte qu'il y avait plein de solutions pour pouvoir apprendre de manière plus gamifiée, de manière plus immersive, une éducation qui s'adapte aussi beaucoup plus aux usages des jeunes.
Marie-Christine Levé, qu'est-ce que vous regardez particulièrement quand vous devez investir dans une entreprise spécialisée comme ça dans l'éducation? Quelle est la chose la plus importante pour vous?
Alors la plus importante, c'est avant tout l'équipe. Vous avez vu, vous avez deux fondatrices super sur votre plateau. Donc c'est avant tout voilà, le dynamisme, l'envie, la persévérance de l'équipe. Et ensuite, c'est est-ce que son produit répond à un besoin du marché. Et surtout, dans l'éducation, on regarde vraiment en quoi la technologie va pouvoir améliorer l'apprentissage. Notre but, c'est vraiment de rendre l'éducation déjà plus accessible au plus grand nombre, hein, parce que l'EdTech, c'est ça. Ça permet d'avoir accès aux meilleurs cours à distance, d'avoir vraiment une éducation beaucoup plus accessible, une éducation à coût réduit, donc vraiment qui réduit la fracture sociale, et une éducation qui permet d'améliorer l'apprentissage. Et c'est vrai que par la personnalisation de l'éducation, on peut vraiment réduire le décrochage et améliorer la manière dont chacun apprend, puisque on sait maintenant avec les études des neurosciences que chacun apprend et retient de manière différente.
Sophie Vigée, je rappelle que vous êtes la directrice générale de 42. Tous ces investissements dans l'éducation de demain, ça vous parle sûrement beaucoup plus à vous qu'à d'autres, mais vous le voyez aussi, vous le constatez, ce dynamisme en ce moment.
Oui, un fort dynamisme, y compris aussi à 42. On voit bien qu'on a de plus en plus de créations d'entreprises. On les accompagne d'ailleurs. On était là à 12% de nos étudiants vont créer leurs propres entreprises et lancer leur start-up. Et on voit que bien évidemment, ça s'accélère. Et on a d'ailleurs, on monte un programme là, et je salue Roxane Varza, on monte un programme avec
la Station F. Qui est la patronne de la Station F, qui est là, le plus gros incubateur au monde et qui est cousin à vous, puisque c'est Xavier Niel qui est aussi derrière cela.
Tout à fait.
Marie-Christine Levé, le secteur de la EdTech, là, avec la crise, vous dites qu'il a gagné beaucoup de mois, beaucoup d'années. Il a gagné combien ?
Il a gagné 5 à 10 ans en termes de rapidité de développement. Aujourd'hui, le marché de l'EdTech, hein, c'est un marché qui va être estimé à 500 milliards de dollars dans le monde. Hein, donc c'est un marché en pleine effervescence, en plein boom. On en est au tout début de l'effervescence de ce marché, puisque le secteur de l'éducation n'est digitalisé qu'à hauteur de 3%. Et on utilise finalement l'Internet dans tous les actes de notre vie quotidienne. Et il y avait finalement un seul secteur qui n'avait pas franchi encore la barre du numérique. Hein, c'était le secteur de l'éducation. Et donc, je pense que cette crise a vraiment entraîné une prise de conscience de tous, hein, qu'il faut massivement investir dans ce domaine, hein, si on veut mieux préparer les enfants au monde de demain. Et on l'a bien dit tout à l'heure, hein, on apprend à coder, pas pour devenir peut-être codeur, mais aussi pour décoder le monde de demain, pour comprendre ce qui va se passer dans un monde de plus en plus numérique.
Il faut donc investir massivement dans les startups spécialisées dans l'éducation. C'est ce que vous nous dites, Marie-Christine Levé. Vous êtes la cofondatrice, hein, du premier fonds d'investissement dans ce secteur en France, EduCapital. Merci.
Et Sophie Vigée, la directrice générale de 42, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin. Alors maintenant, vous allez même mettre votre casquette d'entrepreneur, hein, puisque vous allez donner votre avis sur le projet justement d'un entrepreneur qui se lance.
Europe 1.
Et il est 13h42 sur Europe 1. À suivre le pitch du jour, Réglo.
Oui, c'est de la nourriture pour animaux à base d'insectes, et c'est dans un instant. Allez, on parle d'éducation depuis le début de cette émission et on voit à quel point ça bouge. Et on est, hein, comme chaque jour, très heureux avec Elisabeth de vous accueillir là, en direct sur Europe 1, hein, de 13h à 14h. Bah tiens, justement, on va continuer de découvrir cette fois les pépites de demain avec nos trophées Europe 1, la France bouge. Je vous rappelle, la date, hein, de trophée sera le 9 juin. On vous en dira un petit peu plus, mais vous allez voir, on est en train avec Elisabeth et toute l'équipe de vous préparer bel événement. Aujourd'hui, notre témoin du jour, Sophie Vigée, la directrice générale de 42, puis bien évidemment, notre fée à nous, notre pépite à nous, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui est déjà en place.
Et un projet aujourd'hui, un projet qui est né en juin dernier, en pleine crise. Bonjour Basile Lègre.
Bonjour.
Bravo, hein, d'avoir monté un projet au lendemain du premier confinement, il fallait le faire. Hein.
Merci beaucoup.
Donc déjà, félicitations. Vous avez 26 ans, vous êtes le fondateur de Réglo, c'est de la nourriture pour animaux à base d'insectes. Pardon. Vous avez été bénévole, vous, à la SPA, et vous avez pu remarquer la quantité de viande que pouvaient manger les animaux. Et c'est de là qu'est née votre idée. Vous allez nous raconter l'histoire de Réglo. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Ok, super. Donc Réglo, ce sont en fait des croquettes pour chiens à base d'insectes qui sont riches en protéines et que nous utilisons pour remplacer la viande dans nos croquettes. Ces insectes, nous les utilisons pour plusieurs raisons. La première raison qui va nous intéresser, c'est qu'ils ont un apport nutritionnel qui est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'ils vont apporter tous les acides aminés, les vitamines et les minéraux qui sont nécessaires à la bonne santé des chiens. Et par ailleurs, ces protéines sont plus concentrées que celles contenues dans la viande ou le poisson, par exemple. Le second aspect qui va beaucoup nous intéresser, c'est l'impact environnemental de l'élevage d'insectes. En effet, les insectes apportent les protéines animales qui sont les plus respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire qu'élever des insectes va rejeter 5 à 10 fois moins de gaz à effet de serre que de la viande, par exemple. Et donc ces croquettes, nous les fabriquons en France avec donc des insectes, d'autres ingrédients naturels, et nous avons la particularité d'avoir banni d'autres ingrédients controversés tels que les céréales, les graisses animales ou les produits transformés issus de volailles par exemple. Ces croquettes, nous les commercialisons donc sur internet, elles sont commercialisées par nos soins sur le site de Réglo.
Et comme tout le monde, vous oubliez de donner le prix, alors moi je vais le faire, il paraît que c'est mon boulot maintenant. Donc 2,5 kg, 25 €, c'est ça?
C'est bien ça.
Et le gros paquet de 12 kg, c'est 85 €. Voilà, ça, exactement. Je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas donc pour le prix de ces nourritures pour animaux, et bravo en tout cas Basile pour ce pitch.
Merci Basile, je crois que votre objectif c'est de faire du 100% made in France, hein. C'est aussi, voilà, pour ça,
exactement,
que vous êtes là, hein.
On privilégie les ingrédients
locaux. Et ça c'est vraiment
un enjeu
pour vous. Basile, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Basile, bonjour Emmanuel.
Vous allez bien Nathalie?
Oh oui, ça me fait plaisir de vous revoir.
Ben oui, moi aussi, on adore de vous entendre. Donc vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, comme chaque jour, vous avez analysé, épluché, décortiqué le dossier du jour, enfin le projet du jour. Quelles sont les forces et les faiblesses de Réglo?
Alors déjà, les forces, un sujet crucial pour les familles, puisque figurez-vous que 74% des Français qui ont un chien le considèrent comme un membre de la famille, et 75% d'entre eux pensent que le bien-être de leur animal passe par la nourriture. Mmh. Deuxièmement, le site est très bien documenté, bien expliqué, rassurant. On sent vraiment la volonté de transparence, et puis évidemment, l'impact sur la santé des chiens et sur la santé de la planète. Parce qu'il faut le faire, je mettrai 3 détails pour convaincre les réticents.
Parce qu'il faut le faire, hein. C'est la première fois qu'il y a un truc pareil. Hein.
Ouais, c'est rare. Je le dis, c'est vrai. Donc vraiment pour convaincre les réticents, parce que les insectes, hein, c'est pas de, quand même. Ouais. Vous donnez des infos nutritionnelles, vous pourriez peut-être ajouter des infos sur les besoins nutritionnels des chiens, parce que finalement vous dites que ça apporte 25% de protéines, mais on ne sait pas si c'est assez ou si c'est peu. Enfin en fait, voilà, c'est bien de donner un comparatif. Et puis vous dites que par exemple, vous donnez les infos nutritionnelles aussi sur la vitamine D3 et sur d'autres. S'il en manque, s'il faut compléter, bah, expliquez comment faire. Ça donne du contenu encore pour améliorer votre transparence. Et puis enfin, vous pourriez expliquer pourquoi vous avez décidé ces ingrédients, parce que finalement de la patate douce pour un chien, ça peut paraître assez étonnant, et peut-être que ça demande un peu d'explication, tout comme les cendres brutes qu'on retrouve dans les informations nutritionnelles.
Mais la patate douce, c'est pas un animal.
Non, c'est pas un insecte. Mais pourquoi ? Non, la patate douce, c'est une patate.
Bah oui.
Mais c'est bizarre de donner de la patate douce au chien. C'est bien d'expliquer pourquoi.
Ah d'accord,
pourquoi,
ok.
Pourquoi donner, on en donne.
Les
pourquoi
vertus
ce choix-là
de la patate douce, c'est ça que vous demandez.
Mais oui,
Nathalie.
Les vertus de la patate douce et des autres ingrédients.
On a surtout compris que c'est top et qu'elle n'a pas grand-chose à vous dire.
Oui, c'est ça. Elle a brodé. Merci d'avoir brodé autant, Nathalie. En fait elle a adoré. Tout à fait.
Non, mais ça reste quand même une réflexion hyper intéressante. Et ce qui va nous intéresser donc sur les besoins nutritionnels des animaux de compagnie, c'est surtout qu'ils ont besoin en fait de protéines d'origine animale. En effet, ils ont un système digestif qui est extrêmement court. À l'inverse de ruminants, ils ne sont pas faits pour digérer des végétaux. Mmh. Et donc, ce qu'on cherche à faire chez Réglo, c'est d'apporter des protéines animales qui soient à la fois extrêmement complètes, mais aussi plus vertueuses pour l'environnement.
Quand on dit là, les animaux, ça va de quoi à quoi pour le moment, la gamme que vous proposez chez Réglo?
Alors, aujourd'hui, on propose des croquettes pour chiens adultes. On travaille sur d'autres produits.
Pour chiens heureux, vous marquez sur votre papier.
Pour chiens heureux également,
c'est,
voilà, c'est vrai que ça contribue au bonheur des chiens. Ils ont beaucoup plus d'énergie, un beau poil et une bonne digestion. Et donc, on a aussi comme projet de développer des produits pour nos amis les chats. C'est quelque chose qui est extrêmement plébiscité par nos clients.
Que dit notre patronne du jour qui se transforme en coach, Sophie Vigée, la directrice générale de l'école 42? Vous avez des animaux?
Alors, je trouve ça formidable. Écoutez, j'ai eu mon meilleur ami, c'était mon chien pendant 12 ans, un Golden Retriever merveilleux. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir connu. Et il s'avère que pendant ces 12 ans, j'étais végétarienne. J'ai arrêté il y a 2 ans pour des raisons de santé. Pendant 15 ans, j'étais végétarienne et je donnais des croquettes à mon chien avec de la viande dedans. Donc, autant vous dire que je suis très, très sensible à cet argument. Je pense que, de toute façon, bien sûr, il y a un marché, c'est extrêmement innovant. On est quand même, j'espère, tous sensibles aux problématiques maintenant écologiques liées à la planète et puis aussi aux problématiques de conditions animales. Donc, c'est vrai que quand vous avez un chien et que vous le chérissez, c'est peut-être un petit peu étrange de ne pas être sensible à la condition des autres mammifères, voire plus loin si possible.
On a le droit d'emmener son animal de compagnie à l'école 42?
Alors, on a un chat, on a un chien, voilà. À 42, on a Norminet et on a Oulé, un magnifique dalmatien.
Basile, vous avez besoin de quoi? Je crois que vous allez faire une levée de fonds cet été, si je ne dis pas de bêtises. Et vous, votre grand challenge, c'est de réussir à être vraiment totalement 100% français dans la fabrication. Et là-dessus, vous avez aussi un petit besoin d'aide?
C'est exact. Alors, aujourd'hui, on a des ingrédients qui viennent majoritairement de nos régions françaises. Nos insectes proviennent des Pays-Bas, du leader européen, tout simplement. Pour autant, l'industrie française est en train de devenir pionnière et on va relocaliser d'ici 2022 les approvisionnements d'insectes au moins. Et on a un objectif d'ingrédients 100% français à terme. Concernant la levée de fonds, c'est vrai qu'on est une très jeune entreprise. On a 9 mois d'existence. Pour autant, le développement est très prometteur Et effectivement, nous cherchons donc plus d'un million d'euros d'ici cet été. Nous allons lancer les opérations très bientôt pour permettre de faire grandir l'équipe, de soutenir la croissance de l'entreprise, de développer nos projets, nos nouveaux produits, comme je vous en parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que notre enjeu étant d'avoir le plus d'impact possible, que ce soit sur la santé des animaux de compagnie, mais aussi sur l'environnement, il est indispensable pour nous de grandir et de nous faire connaître auprès du plus grand nombre. Et ça passe aussi notamment par un déploiement en magasin.
Ça s'appelle Réglo, c'est de la nourriture pour animaux à base d'insectes. Ça nous a beaucoup plu à La France Bouge. Merci à vous, Basile Lègre, d'être venu nous la présenter.
Et merci également, bien sûr, à Nathalie Carré, qu'on retrouvera demain pour ses précieux conseils. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez venir présenter votre projet, eh bien, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Sophie Vigier, vous êtes la directrice générale de 42. Suite et fin de votre émission, on vous reste encore un tout petit peu avec nous.
Mais avec grand plaisir.
Europe 1.
Et il est 13h52.
À suivre demain au travail, notre société change et nos entreprises aussi.
Oui, et on va passer un coup de fil du côté de l'ESSEC. Là-bas, ils font des challenges sportifs. Et la suite de La France Bouge avec notre témoin du jour, Sophie Vigier, qui est la directrice générale de 42.
Et demain au travail, comment nos entreprises, nos structures, nos associations sont-elles en train, elles aussi, de se transformer pour placer le capital humain au cœur de tout? Bonjour Nathalie Coueffé.
Bonjour.
Vous êtes la DRH de l'ESSEC, hein, l'ESSEC, la grande école de commerce française qui existe depuis 1907. Vous avez 4 campus et vous avez 769, on est précis à La France Bouge, salariés. Vous collaborez avec une start-up, c'est Super Héros, qui a mis en place une application pour permettre à vos salariés de prendre soin d'eux, et cela passe par le sport.
Tout à fait. Alors peut-être pour vous donner quelques éléments de contexte, hein, à l'ESSEC, l'expérience collaborateur est vraiment au cœur de notre stratégie. Et nous sommes soucieux d'accompagner nos salariés au quotidien, et d'autant plus, vous l'imaginez bien, en cette période assez inédite de confinement, pour améliorer leur qualité de vie pendant cette période de télétravail intensif. Nous avons mis en place plusieurs dispositifs avec un objectif commun, que nos salariés s'autorisent à s'accorder du temps et à prendre soin d'eux et de leur santé.
Parce que là, je crois que l'idée, c'est de valoriser chaque minute pour qu'elle soit consacrée à son bien-être. C'est ça l'idée ?
Exactement. En fait, cette application, donc ce programme de bien-être digital qui a été lancé à destination de tous nos salariés sur nos 4 campus, est une application de bien-être sport en entreprise. Et nous, pour encourager nos équipes à prendre soin d'elles, nous leur avons concocté avec les équipes de United Heroes, hein, nous nous sommes fait accompagner de leurs experts, un challenge qui se voulait collaboratif et solidaire, spécifiquement pour nos salariés de l'ESSEC. Mmh. Donc le concept est très simple. Chaque activité répertoriée dans l'application United Heroes permet de générer des points et ensuite répondre aux ambitions de notre challenge qui consistait à relier virtuellement nos 4 campus pour garder.
Ça fait 22 000
km
pour ceux qui se poseraient la question.
Mais c'était quoi comme challenge ? C'est pas parcourir 22 000 km.
Le challenge était justement de mobiliser chacun des collaborateurs sur des activités sportives.
Comme quoi, par exemple ?
La marche, la course à pied, le vélo ou même des éco-actions, par exemple.
Ah oui.
Et je crois que vous avez réussi à relever le défi haut la main.
Haut la main, je suis très fière de nos salariés, puisqu'on a plus de 224 participants qui ont relevé le challenge et qui ont parcouru donc 26 000 km, 140% de l'objectif initial. Et nos équipes ont porté haut, encore une fois, les valeurs de notre école au travers de ce challenge.
Sophie Vigier, vous êtes la directrice générale de 42. Vous aussi, vous prenez soin de vos salariés, de vos étudiants à travers des challenges, le sport. Comment ça se passe?
Ah oui, tout à fait. Alors, particulièrement des étudiants, enfin, de salariés aussi, on en prend soin. Ils ont l'air très heureux, donc je suis contente. Mais aussi des étudiants et des étudiants à travers le monde. On a fait des challenges. On a fait des challenges notamment avec Coding Game. On a fait beaucoup, beaucoup d'événements, des conférences, des hackathons. On a fait ensemble aussi pour aider aussi dans la période de Covid. Donc oui, on a réussi à les rassembler. Et c'est très important d'être rassemblés autour justement d'une cause, souvent pour eux, ou autour d'un jeu autour d'un hackathon.
Nathalie Coueffé, ils en redemandent parce que ça, c'était en janvier. Vous allez en refaire là prochainement ?
Absolument, on réserve encore d'autres surprises à nos collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, ils continuent d'utiliser.
Évidemment,
cette
application. On est encore tout le monde en télétravail, donc j'imagine que voilà, ça va durer. Voilà. Merci à vous, vous êtes la directrice des ressources humaines de l'ESSEC. Merci à vous, Nathalie Coueffé.
Et un grand merci à vous, Sophie Vigée, directrice générale de 42, de nous avoir accompagnés
merci
pendant toute cette heure.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Et merci à vous, Sophie Vigée. C'est la fin de votre émission. Emmanuel, on se retrouve demain. Et on va parler de quoi, tiens, demain?
Ben demain, on a 1000 solutions rentables pour que la planète aille mieux d'un point de vue écologique. On sera avec l'aventurier Bertrand Piccard qui viendra nous dévoiler demain ces 1000 solutions qu'il a répertoriées et logotées.
Restez sur Europe 1. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.